Le billet politique, Stéphane Robert. Le Sénat, l'enfant terrible de la République.
Cette fois, c'est la guerre. Le Sénat est entré en rébellion contre Emmanuel Macron. Il a décidé de renvoyer devant la justice pour faux témoignage Alexandre Benalla et Vincent Crase, mais aussi le directeur de cabinet du président Patrick Strauda. Et puis, si le procureur le souhaite, il pourra aussi s'occuper des cas d'Alexis Keller, secrétaire général de l'Élysée, et de Lionel Lavergne, chef de la sécurité du chef de l'État, dont les déclarations sont qualifiées d'incohérentes et de contradictoires. La réaction indignée du pouvoir exécutif, actant qu'il s'agit là d'un crime de lèse-majesté à l'égard du président, ne s'est pas fait attendre. C'est un complot politique, a crié le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, dans tous les micros qui passaient à sa portée. Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a annulé le déplacement qu'il devait effectuer aujourd'hui à Lille en compagnie du président du Sénat, Gérard Larcher, et le Premier ministre, Édouard Philippe, a refusé d'assister aux questions au gouvernement qui se tenait hier après-midi au Palais du Luxembourg.
Que s'est-il donc passé pour qu'on en arrive, Stéphane, à ce point de rupture entre les sénateurs et Emmanuel Macron?
D'abord, il faut bien voir que derrière l'affaire Benalla, il y a la réforme des institutions. C'est parce qu'on commençait à examiner cette réforme l'été dernier que le Sénat s'est constitué en commission d'enquête, ce qui a eu pour effet de la reporter. Mais les sénateurs ont perçu que le président a aujourd'hui l'intention de la remettre à l'agenda à l'occasion du grand débat et qu'il entend jouer de cette mesure populaire dans l'opinion qu'est la réduction du nombre de parlementaires. Déjà, en mai 2018, le président de la commission des lois, devenu par la suite président de la commission Benalla, le sénateur Philippe Bas, dénonçait cette réforme des institutions qui devait s'accompagner d'un renouvellement de l'ensemble du Sénat en 2021.
L'idée, c'est je remplace tous les sénateurs d'un seul coup après les élections municipales que j'espère que je vais gagner pour mettre par terre la majorité sénatoriale parce que dans la République, il y a un pouvoir qui me résiste, c'est le Sénat. Je ne veux pas de contre-pouvoir, je veux être tout puissant. Je suis seulement président de la République, j'ai un gouvernement soumis, une assemblée nationale déférente, c'est pas assez. Je veux que les territoires soient à la botte et je veux que le Sénat s'incline et se soumette.
À ce stade, on en était encore à l'indignation. Mais depuis, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la lettre aux Français qu'Emmanuel Macron a publiée mi-janvier, lettre dans laquelle il pose cette question. Quel rôle nos assemblées, dont le Sénat et le Conseil économique, social et environnemental, doivent-ils jouer? Faut-il les transformer? Et comment? Pour les sénateurs, cette question est aussitôt apparue comme une menace et comme une nouvelle remise en cause de son rôle et de sa place au sein des institutions de la République.
Car cette interrogation, faut-il supprimer le Sénat, revient régulièrement.
Oui, en 2015, c'est Claude Barthelone, alors président de l'Assemblée nationale, qui s'en emparait.
Le rapprochement entre le Conseil économique et social et le Sénat pour avoir un Bundesrat à l'allemande qui s'intéresserait
donc
beaucoup plus
suppression
au long
du
terme.
Sénat en tant que Sénat, quoi.
En tant que Sénat, sous la forme telle qu'on la connaît aujourd'hui, oui.
Cette idée n'est pas nouvelle. Ségolène Royal, en 2005, qualifiait le Sénat d'anachronisme démocratique. Lionel Jospin, en 98, parlait d'une anomalie parmi les démocraties. Et on peut remonter comme ça dans l'histoire. C'est déjà sur cette question de la fusion du Sénat et du Conseil économique et social que le général de Gaulle, en 1969, avait organisé un référendum.
Si je reçois la preuve de votre confiance, j'achèverai grâce à vous, par la création des régions et la rénovation du Sénat, l'œuvre entreprise il y a 10 années pour doter notre pays d'institutions démocratiques adaptées au peuple que nous sommes et à l'époque où nous vivons.
On sait ce qu'il advint, le grand Charles fut désavoué et s'en retourna ruminer son échec à Colombey. Sous la Troisième République, Léon Blum lui aussi perdit le bras de fer qu'il avait engagé. En 1920, il présenta un programme où il était question de supprimer le Sénat. 17 ans plus tard, les sénateurs lui refusèrent les pleins pouvoirs financiers. Il fut contraint de démissionner, ce fut la fin du Front Populaire. Clémenceau, lui aussi, annonça dès 1880 qu'il voulait supprimer la Haute Assemblée, mais lui, en revanche, ne s'y est jamais risqué. Depuis près de 150 ans, le Sénat est l'enfant terrible et mal aimé de la République. Il est considéré comme un vestige de l'aristocratie, creuset qui concentre les conservatismes, inutile, inadapté, poussiéreux, comme un enfant en difforme dont ce serait bien passé et qu'on tolère pour peu qu'il reste caché. Mais il s'accroche à ses privilèges comme à son existence honteuse. Et lorsqu'on s'y attaque, il geint, il griffe, il mord, il se rebiffe.
Merci Stéphane Robert. On retrouve votre billet politique sur le site de France Culture, franceculture.fr.